Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est une véritable épopée que nous allons vous conter aujourd'hui, et ce en compagnie d'un artiste qui a connu plusieurs vies africaines, européennes, américaines, et dont le talent a été salué sur les 5 continents. Il est bassiste, camerounais, compositeur, interprète, instrumentiste précieux, réclamé par les plus grands. Il nous présente en 2015 son nouvel album Siseya. Nous avons le bonheur d'accueillir Vicky Edimo. Soyez le bienvenu.
Merci, bonjour.
On ne le dira jamais assez, vous êtes avec Jean Dikoto Mendengue, l'un des pionniers de la basse au Cameroun. Et vos héritiers s'appellent Étienne Bappé, Richard Bona, Guy Sangay. Vous leur avez ouvert la voie en quelque sorte à l'échelle planétaire, puisque 10 ans avant leur succès international, vous étiez vous-même en compagnie de musiciens légendaires comme James Brown, Bob Marley, Steve Coleman, Maceo Parker. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. D'abord, parlons de ce nouveau disque, Siseya. L'intention n'était pas de faire dans la démonstration de la technique de basse, si je comprends bien.
Non, justement, pas du tout. Parce que, comme vous disiez plus tôt, étant reconnu comme bassiste déjà, c'est peut-être pas la peine de faire un album de bassiste comme ça se fait souvent maintenant. Donc voilà, l'idée par rapport à cet album, c'était de faire un album de mes sentiments, hein, vis-à-vis de la musique en tant qu'Africain, et bien sûr en impliquant certaines de mes expériences au fil des années.
Est-ce que l'époque des bassistes virtuoses et des solos de haute volée est révolue?
Ça, c'est difficile à dire parce que, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Si un bassiste a envie de faire que de la basse, on voit par exemple l'exemple de quelqu'un comme Marcus Miller qui est pas chanteur. Bon, il s'est concentré sur son instrument. Il y en aura peut-être d'autres. Mais dans mon cas, moi, étant donné que je joue pas que de la basse, je compose, j'arrange, je réalise, j'ai envie un peu d'impliquer tout ça dans ma nouvelle carrière, entre guillemets, quoi.
Que recherchent les musiciens qui font appel à vous? Le bassiste techniquement parfait ou le mélodiste délicat?
Ben moi, je dirais qu'ils recherchent ce que je peux leur apporter dans leur musique. Quand je suis allé aux États-Unis, par exemple, bon, des techniciens de haute volée, il y en a des tas. Mais seulement, bon, la différence, c'est que moi, j'avais cette expression africaine en plus de la technicité qui les interpellait, quoi. Les musiciens qui jouent dans les albums de Quincy Jones, de Michael Jackson et autres, quand on leur dit c'est un Africain, il doit être des îles, c'est pas possible. Parce que bon, c'était la première fois qu'ils voyaient un Africain qui s'exprimait déjà avec eux. à cette dimension-là. Pour eux, c'était quelque chose d'impossible.
Sur ce nouveau disque, il y a des titres très subtils, comme Wallo ou Namapula Wa. Je ne sais pas si je prononce bien, parce que
Absolument.
Mon doigt là est assez pauvre, disons-le.
Absolument, vous le faites comme un doigt là.
Il y a aussi des compositions plus enlevées, comme Buemba ou Njoé, que nous écouterons en fin d'émission. Mm-hmm. Comment définiriez-vous l'humeur de cet album ?
Ben ça aussi c'est quelque chose. Vous savez, quand on compose une chanson, c'est pas calculé. On calcule pas une composition. Ça vient et selon ce qu'on ressent, on veut l'exprimer, on veut pas l'exprimer. Donc c'est des ressentis.
J'ai cru comprendre que vous essayez également à travers ce disque de passer quelques messages. C'est l'actualité qui vous inspire vos compositions ?
Il y a l'actualité, il y a le vécu, il y a mon vécu à moi, le vécu des autres. C'est pareil, c'est un ensemble de choses. J'ai toujours eu des choses à dire. Mais je me suis toujours retrouvé prisonnier de la basse à travailler derrière des personnes connues ou pas connues. Mais aujourd'hui, je suis vraiment assez stimulé par l'idée de pouvoir faire ma musique librement.
Que raconte Onguanemo, qui est un titre qui date déjà depuis de quelques années, mais que vous avez en quelque sorte réadapté?
Voilà, j'ai réadapté parce que la première version, il y avait quelque chose qui manquait. À mon avis, je me suis dit, bon, il y a des gens qui ont aimé ça, mais je voudrais l'amener au bout de ce que je voulais faire. Et Onguanemo, c'est un titre qui m'a été inspiré. Un soir, je regardais la télé et j'ai vu, Onguanemo, ça veut dire aidez-le. Et je vois ça se passait aux Indes. Les petits Indiens qui n'avaient plus personne dans la vie, qui essayaient de gagner leur vie en courant dans les gares, à dormir, et tout le monde les envoyait promener, quoi. Je me suis dit, non, mais on les envoyait promener, mais donnez-leur un coup de main, aidez-les. Il y a certainement des enfants qui, là-dedans, qui ont un potentiel d'être le président de la République demain. Et j'ai composé cette chanson-là, Onguanemo.
Eh bien, écoutons cet appel à plus de solidarité et de générosité. Onguanemo, Vicky Edimo. Onguanemo, donc, extrait de Cecilia, le nouvel album de Vicky Edimo, notre invité dans l'épopée. Je vous avais découvert sur Sun Explosion de Manu Dibango, il y a quelques années.
Oui.
Et en cherchant un peu, j'ai retrouvé une liste impressionnante de collaborations et j'aimerais que vous me confirmiez ou non certaines légendes. D'accord? Alors déjà, avez-vous travaillé, oui ou non, avec James Brown?
Ben oui, oui, sauf que j'ai pas fait de scène avec lui, contrairement à ce que les gens croient. C'est-à-dire que quand son manager m'a récupéré à Paris, après une session où il cherchait un bassiste, une semaine après, j'étais à New York. Donc il m'a présenté à James. C'était par rapport à une tournée mondiale qui a été annulée. Donc on a fait quelques répétitions. Et Bob Marley, c'est un peu pareil. Quand je suis allé en Afrique avec Bob Marley, c'était sa toute première date. Les gens croient que son premier concert en Afrique, c'était le concert de Zimbabwe. Non, c'est pas vrai. C'était des dates au Gabon d'abord.
D'accord.
Où voilà, le manager de James Brown, Charles Bobbitt, il m'appelle un jour, me demande est-ce que ça vous dirait d'aller faire une tournée avec Bob Marley. J'étais en train de réfléchir en me disant, mais il se fout de moi ou quoi? Il me fait, you wanna do it or not? Tu veux le faire ou non? Je dis, oui, bien sûr.
Et donc, vous avez joué à Libreville?
Ouais, alors, je suis parti comme interprète. Il savait même pas que j'étais bassiste, Bob Marley, au départ. Mais comme j'étais tout le temps avec lui, il a sorti sa guitare, j'ai dit, voilà, je suis bassiste, j'ai ramené ma basse, on a passé beaucoup de temps à jouer, mais il y avait, comment ça, Family Man, qui est indécrottable. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est que, bon, bah, écoute, j'aime bien ce que tu fais et j'aimerais bien que tu participes à mon album d'après. Et entre deux, il est mort. Je me rappelle, j'étais à la Berklee School, je faisais mes devoirs dans ma chambre et j'avais la radio en sourdine et j'apprends, voilà. Moi, j'attendais le coup de fil qui m'amènera en Jamaïque, travailler sur l'album, et j'entends, voilà, la disparition de l'immense Bob Marley, quoi. Et bon, je me suis pas dit, voilà, oh là, j'ai un super geek qui vient de passer, donc c'est, tout de suite, c'est waouh, quelle perte pour le monde. Mmh. C'est vraiment la pensée que j'ai eue, quoi.
Vous avez en tout cas côtoyé les Maceo Parker, Fred Wesley, Pee Wee Ellis.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez en commun, finalement?
Bonne question. J'ai pas de réponse à ça, mais c'est peut-être l'esprit, parce que eux, ils savent pas que la funk, c'était une musique africaine aussi. Mais peut-être exprimé d'une autre façon. Parce que je me rappelle, on faisait une séance, c'est ce percussionniste-là, Paulino da Costa, qui est venu vers moi en me disant, mais ça, c'est un style, c'est très funky, mais c'est pas quelque chose d'ici. Donc c'est peut-être ça, là, je vois, la dernière fois que j'ai joué avec Fred Lewis et Pee Wee, c'est il y a 4 ou 5 ans, au cours d'une tournée européenne en hommage à James Brown. Et bon, dans leur funk, j'apportais quand même un petit esprit Makossa, un petit esprit Bikuti, que l'Américain n'est pas...
capable de reproduire.
Je dirais pas capable, mais c'est pas à sa portée. Voilà. Parce que s'il travaille, certainement, il en serait capable.
Ce n'est pas son identité propre.
Exactement. Mm. La première fois que j'ai rencontré Mezio, il a écouté, il vient vers moi, il fait, mais where are you from? You're mean! Et puis, bon, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé. Et puis, Fred, c'est pareil, on s'était perdu de vue, on s'est retrouvé. Donc, il m'a invité à faire cette tournée. Et il me dit, mais je parle que de toi, il parle que de toi. Bon. Mais bon, c'est des bonnes expériences. Ça me permet maintenant d'avancer tranquillement dans ce que j'ai envie de faire, moi.
Quand on se retrouve en présence de musiciens américains, est-ce que le dialogue musical est facile? Est-ce que les origines culturelles ont une incidence sur votre compréhension mutuelle?
Pas du tout. Pas du tout, parce que vivant déjà en France, j'avais affaire à tellement de différentes formes de musique que, quelque part, la France m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais tellement fait de séances en France que c'était pareil, quoi. Sauf que bon, parfois on tombait sur des pointures tellement énormes que... Mais la démarche est la même. Donc j'étais pas du tout dépaysé, même il y a certaines personnes. Regardez James Brown, par exemple, on jouait ses trucs depuis que j'étais gamin au Cameroun.
Donc vous connaissez ça par
cœur. Donc j'avais plus rien à apprendre, en fait, en tant que tel.
Sauf apprendre du personnage.
Oui, et puis il y a une rigueur, le professionnalisme, la précision, la justesse, rien n'est fait au hasard, quoi. Parce que comme tout fonctionne par rapport à comment il danse, par rapport à son corps, donc il faut lui donner ça. Sinon, on n'a rien à faire là, quoi.
En tout cas, avec Manu Dibango, l'entente musicale était évidente à en juger par ce gimmick de basse que vous avez plaqué sur Sun Explosion.
Ginger Willy.
Cantar, Vicky Limo sur le titre Sun Explosion de Manu Dibango en 1978. Quelle oreille portez-vous sur ces anciens enregistrements?
Ben, je les réécoute, hein, pour certains d'entre eux, et parfois je me disais, waouh, mais j'étais fou à l'époque.
Vous aviez quel âge d'ailleurs quand vous avez enregistré ce titre avec Manu?
Ce titre précisément, je devais avoir 23 ou 24 ans, en tout cas pas plus.
Ah ouais.
J'étais vraiment tout jeune, et là d'ailleurs je tiens à rendre hommage à Manu, parce que quand je suis arrivé du Cameroun, je savais jouer évidemment, mais je connaissais pas ma valeur vraiment, parce qu'on n'avait pas de repère à l'époque au Cameroun pour savoir ce qu'on veut, parce que puisqu'on reprenait souvent des titres qui existent déjà, donc il n'y avait pas de créativité impliquée personnelle. Donc c'est à travers la première personne vraiment qui m'a orienté dans ce que c'est que ce métier de musicien, c'est Manu.
Quels sont les bassistes qui vous impressionnent toujours aujourd'hui?
Impressionné, c'est peut-être pas le mot, mais qui m'excite, je dirais.
Ouais. Ouais.
Il y en a pas mal, la liste est longue, mais bah, il y a déjà mes compatriotes,
ouais,
qui m'excitent quand je le vois jouer. Je suis aux anges. Il y a évidemment Richard Bonnet, Mbappé, Guinsangue, André Manga, Armand Sabaleko, et il y en a plein que j'oublie. Sur la scène française, il y a aussi des gens comme Lynn Lemart.
Oui.
Aux États-Unis, il y a des gens comme Buddha Dickens, qui est peut-être pas très connu, mais qui est un chien méchant. Il y a évidemment Marcus Miller. Le terme, c'est de dire qu'il m'excite, parce que admirer, ça veut dire que j'ai envie d'essayer de jouer avec comme eux, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai mon esprit, mon style à moi, que d'autres aussi admirent, mais il m'excite. Il m'excite, et c'est sûr que si je peux prendre un plan parce que je le trouve sympa, ben je le prendrai.
Est-ce que vous écoutez leur disque avec une oreille neutre, ou est-ce que vous analysez leur jeu?
Quand j'écoute, c'est le bassiste qui écoute l'autre bassiste. C'est-à-dire, il y a les deux. Mais il y a le recul. Et puis, il y a l'analyse. Il faut, en fait, c'est l'émotion qui est dégagée de la bombe qui m'amène à le disséquer. Mais il faut qu'il y ait une émotion qui m'attire à ça avant.
Est-ce que vous avez écouté le dernier album de Marcus Miller?
Pas encore. J'ai écouté un seul titre sur Internet, mais j'ai pas encore eu le temps de m'asseoir et l'écouter entièrement. Mais le titre que j'ai écouté, j'ai bien aimé, il m'a semblé vraiment pas mal.
Je suis convaincu que vous avez entendu ce titre-là. Life, Marcus Miller, extrait de Aphrodisia, son dernier album en date, paru le 16 mars 2015. Quand on entend ce mélange de cultures sonores, on se dit que les catégories musicales ne servent à rien. Est-ce qu'il faut malgré tout affirmer son identité, ses racines, quand on est musicien?
Ben, quelque part, c'est incontournable, parce qu'on ne peut pas fuir ses racines. D'ailleurs, ça, c'est une chose que Paulino da Costa m'avait dit. Il me dit, joue ce que tu joues là, ne change pas. Parce que bon, il y a l'âme d'un Africain derrière, et puis pour rien au monde je changerais ça, parce que l'expression elle reste roots. Bon, on n'a qu'à voir quand Richard Bonnet fait un album, il y a toute la technicité américaine, ou Étienne Mbappé ou d'autres qui, quand ils font leurs albums, il y a toute la technicité américaine, mais ils peuvent pas fuir leurs racines.
Est-ce que Siseya défend vos origines camerounaises? Est-ce que c'est un plaidoyer pour les cultures ancestrales de votre terre natale?
Mais c'est pas trop ce regard que j'ai. J'évite de caser les choses. J'approche la musique en tant qu'Africain, avant tout. Notamment les Américains doutaient que j'étais Africain. Et ça, ça a été quelque chose aussi qui m'a beaucoup motivé par rapport à mon identité à moi, quoi. Surtout de pas m'en défaire.
En même temps, les Américains changent. leur regard sur le continent africain a changé en l'espace de 30 ans.
Oui, oui, moi je suis très content quand j'écoute Marcus Miller qui fait de l'afrobeat, personne n'y aurait pensé.
Est-ce que Njoé, que nous allons écouter maintenant, fait appel à votre mémoire, à votre enfance, à l'histoire?
Oui, 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 absolument, parce que Njoé, c'était des jeux d'enfants, c'était des comptines hein, d'enfants, Njoé Mato, Mbatomo, Tasso, Bambusa. Et puis, quelque part, quand j'ai composé ce groove-là, c'était juste un groove, il n'y avait pas de mélodie ni rien du tout, et je l'écoutais, je me dis, tiens, je vais m'amuser un peu. Je vais revenir à nos jeux d'enfants, parce que c'est ce que ça m'évoquait, quoi.
Et le gimmick, Wassa.
Wassa, Wana, Nabongele, Wassa. C'est ce qu'on appelle chez nous les ambiances, quoi. C'est tout simplement ce qu'on appelle les ambiances, quoi. Les grooves, c'est-à-dire on accentue le groove avec la voix et beaucoup de gens s'identifient. Rien que ça, ça fait danser chez nous.
Eh bien, nous allons ambiancer avec cette comptine que nous allons écouter maintenant, non sans vous avoir remercié d'être venu nous conter une part de votre destinée, Vicky Dimo. Et j'espère que vous reviendrez plus souvent nous voir ici, sur cette antenne.
Avec plaisir. Avec
merci
plaisir.
À vous. De l'album Siseya. Est-ce que vous avez prévu quelques concerts pour présenter ce disque à vos nombreux admirateurs, Vicky Ledimo?
Mais pour l'instant, on travaille dessus, parce que comme vous devez le savoir, c'est pas facile. Aussi, j'ai pas envie de présenter n'importe quoi. Je fais des répétitions de manière à satisfaire les gens. Donc voilà, mais sinon on travaille dessus, hein, parce que bon, ben c'est sûr que ça me tient à cœur d'aller jouer notamment en Afrique et ailleurs. Bon, je vais accompagner des gens un peu partout, mais vraiment avec ma formation, aller jouer en Afrique, ça me vaut très bien. Quoi.
Bon, le message est passé. Sachez en tout cas que vous serez toujours le bienvenu ici même.
Mais tout le plaisir est pour moi. Hein.
La semaine prochaine, nous recevrons l'un de vos homologues, Marcus Miller, le bassiste. Vous vous connaissez d'ailleurs?
On s'est rencontrés une fois à New York et bon, on était voir cet artiste brésilien qui s'appelle Djavan. Et il était là, assis. Et donc, comme j'étais avec quelqu'un qui le connaissait, il me l'a présenté, on s'est échangé les numéros. Mais bon, c'était à New York. Hein, et donc voilà, c'est la seule fois où je l'ai rencontré.
Grand personnage d'une humilité également.
Oui, oui. Enfin, c'est important. Mm. Parce qu'à partir du moment où on commence à se dire « je suis le meilleur, j'ai tout compris », on est mort. Mm.
Quoi qu'il en soit, il nous présentera Aphrodisia, son nouvel album paru chez Blue Note. Et ce, à quelques jours d'un concert à l'Olympia à Paris le 13 avril. Vous y serez forcément.
Ah oui. Surtout que moi, ce qui m'interpelle dans cette approche, je viens de l'entendre, son afrobeat là, ça me ramène à Fela.
Bien sûr.
Ça m'a ramené à Fela parce que bon, Fela, il a quand même eu des gros combats, quoi. et pour arriver à poser sa musique de manière à ce qu'elle soit reprise par de grands artistes comme ça, moi je tire mon chapeau.
Absolument. Quelques autres rendez-vous à noter. D'abord, la suite du festival Chorus des Hauts-de-Seine près de Paris, avec notamment jusqu'au 5 avril la batteuse chez la I, le blues malien de Songroy Blues, un pilier des musiques angolaises Bonga, ou encore la jeune camerounaise de Douala, la chanteuse Irma, que vous devez connaître peut-être, Vicky Edimo.
Pas directement, je sais que mon fils Tioni est très lié, enfin c'est plus de sa génération quoi, parce qu'ils ont fait des émissions ensemble sur Franço, et donc je suppose qu'ils se connaissent, et plus que moi je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai vu une ou deux fois à la télé comme tout le monde quoi.
Par ailleurs, le festival Banlieue Bleue en Seine-Saint-Denis se poursuit également au nord de Paris, avec cette semaine Samba Touré, David Murray, Saul Williams, et un peu plus tard Blik Bassi, Mokouyaté, Lucky Peterson, et une soirée Dakar is Rap avec les meilleurs rappeurs sénégalais du moment. Et enfin, n'oubliez pas la venue du batteur Al Foster au New Morning le 1er avril, ancien partenaire de Miles Davis. Et votre ami Fred Wesley, toujours au New Morning le 2 avril, vous irez lui faire un petit coucou, j'imagine.
Ah, sans doute. Sans doute.
Sans oublier le batteur Sangoma Everett au Sunset à Paris le 2 avril, et Didier Locoud en compagnie de Paco Seri à la batterie du 3 au 5 avril, toujours au Sunset. Merci à Nathalie Laporte pour m'avoir suggéré les illustrations musicales du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.